Bonjour à tous, bienvenue dans Parlons Immobilier, le podcast immobilier numéro 1 de France, dans lequel on parle de tous les sujets immobiliers pour les agents immobiliers, investisseurs, étudiants. Aujourd'hui, un épisode dans lequel j'ai hâte d'apprendre plein de choses. On va parler investissement immobilier, mais pas l'investissement immobilier classique. J'ai déjà fait un épisode dessus. On va parler plus achat-revente, opération de marchand de biens, comment acheter un bien, un prix, faire les travaux et le revendre pour faire une plus-value. Avec moi, j'ai un expert, l'expert en opération de ce type. Vous le connaissez peut-être, vous avez sûrement vu une de ses pubs sur les réseaux si vous vous intéressez un peu à l'immobilier. Il a plus de 27 000 abonnés sur Instagram. Caroline Artaud, merci beaucoup d'être là.
Hello, j'espère que vous allez bien à tout le monde et puis merci de m'avoir invité dans ton podcast.
C'est un grand plaisir, comme d'habitude. Est-ce que tu peux, pour ceux qui ne te connaisseraient pas, est-ce que tu peux te présenter, nous dire ce que tu fais actuellement?
Ok, eh bien bonjour à tous. Donc moi je m'appelle Caroline, j'ai commencé l'investissement immobilier il y a maintenant 11 ans. Donc j'ai commencé très simplement, je devais me loger. Pour me loger, j'avais deux options, soit louer un appartement, soit essayer d'en acheter un. Un petit peu comme beaucoup de personnes, on se dit, bon, bah, c'est dommage de louer un appartement, puisque ça va me faire dépenser de l'argent dans un loyer, etc. Et c'est pas forcément de l'argent que je vais pouvoir récupérer par la suite. Donc, je me suis dit, peut-être autant acheter un appartement. Et quitte à acheter un appartement, eh bien, autant faire une bonne affaire pour pouvoir, par la suite, même sans parler de faire du marchand de biens ou quoi que ce soit, au moins récupérer les fonds qu'on a mis, dans un crédit. Tous les mois, le temps qu'on a été dans l'appartement. Donc ça, c'était ma première démarche. Et puis petit à petit, bah, j'ai revendu, j'ai gagné de l'argent finalement plus que prévu, même une deuxième, une troisième opération, une entreprise de marchand de biens. Et ensuite, j'ai continué à multiplier les opérations jusqu'à aujourd'hui.
Donc c'est intéressant parce que tu commences, t'as pas forcément cette idée de d'en faire, on va dire, une profession ou d'en faire un business. Tu attaques vraiment, on va dire, un peu de manière classique, je pense, comme beaucoup de gens, par ta résidence principale. Et en fait, en réalisant une bonne affaire, tu te dis, il y a peut-être quelque chose à faire dessus.
Exactement. Alors j'ai mis beaucoup de temps à trouver mon premier bien puisque je tenais quand même à faire une bonne affaire.
Oui.
Mais oui, le but c'était pas forcément de devenir marchand de biens ou quoi que ce soit. Le but c'était simplement de me loger et puis bah, quand j'allais remettre en vente, pouvoir gagner de l'argent.
À partir de quel moment est-ce que tu alors soit si tu peux nous donner le chiffre par exemple de ta première ton premier achat, et ou à partir de quel moment tu te dis j'ai envie d'en faire une profession ou de faire ça à plein temps, et j'ai envie de multiplier les biens, multiplier les opérations.
En fait, donc j'achète mon premier appartement, je le rénove intégralement. En toute transparence, bon, j'ai fait un petit peu toutes les bêtises qu'on pourrait faire quand on rénove un bien, puisque moi j'y connais strictement rien. Je me suis dit, bon, bah, je vais essayer de faire un maximum moi-même, mais j'ai aucune connaissance et compétence dans les travaux. On va dire que je suis courageux et j'ai de la chance à l'époque d'avoir des amis, par contre, eux qui sont dans la rénovation. Donc, bref, j'essaie de faire en partie avec eux et en partie moi-même. Tout ce que je fais, malheureusement, il faut le refaire et refaire faire par un professionnel. Donc, ça ne me coûte pas forcément moins cher. Par contre, je ne regrette pas parce que j'ai énormément appris. Je suis pas très très manuel, mais aujourd'hui, voilà, je pourrais rénover un appartement quasiment moi-même, même si je suis pas du tout manuel parce que j'ai beaucoup appris. Et donc, bref, donc je rénove intégralement le bien, je le mets en vente et c'est vraiment la chance du débutant. Première visite, et c'est la première offre, j'y crois pas trop. Bon, je fais remonter quand même un petit peu le prix, et puis ça se vend bien. Je fais 70 000 euros de bénéfice, sachant que, comme tu l'as dit, que c'était ma résidence principale. Donc c'est cool, mais en réalité, bah, je ne suis rien ni personne, et une fois que j'ai vendu le bien, je repars un petit peu au niveau zéro. C'est-à-dire que j'ai un petit peu de sous sur le compte, mais bon, je suis pas marchand de biens, je suis personne dans le monde de l'immobilier, donc faut repartir pour trouver une deuxième affaire, et ça c'est un petit peu compliqué. Et finalement, bah, j'ai un ami qui m'a trouvé une opération, qui m'a dit, tiens, je peux pas l'acheter, là vu que tu as fait un peu de fonds, bah tu peux peut-être te placer dessus. Et puis une deuxième, et à partir de la deuxième ou lorsque j'ai vendu, là je me suis dit, ok, je vais en faire ma profession et je vais ouvrir mon entreprise de marchand de biens. Et donc j'ai commencé à acheter mon appartement en 2011, le premier, et j'ai ouvert ma boîte de marchand de biens, la SAS Caroline Artaud, fin 2013.
Et ça se passe sur quel secteur de la France, ces opérations, ou juste pour qu'on ait un peu de contexte?
Alors moi j'habite de base, à la base je suis parisien, mais on a déménagé très rapidement dans le sud de la France. Donc moi j'habite à Antibes avec mes parents, et lorsque je fais ma première opération, c'est un appartement que j'achète sur Cannes. Pour
D'accord.
pas prendre de risque, à la base je me dis, ok, qu'est-ce que n'importe quelle personne qui va venir sur la Côte d'Azur souhaite. Bah, la première chose, c'est avoir une vue mer, une terrasse pour pouvoir déjeuner et profiter de la vue mer, et une résidence avec une piscine. Donc, j'essaie de combiner ces trois éléments dans chacune de mes opérations, enfin, en tout cas dans mes premières opérations, et ça fonctionne assez bien, puisqu'à chaque fois que je mets en vente, je revends très rapidement.
Quand tu commences en 2013 donc avec ta société, est-ce que tu attaques quoi sur des gros projets? Est-ce que tu fais plusieurs opérations à la fois, ou est-ce que tu attaques un petit appartement, enfin un appartement, et ensuite tu enchaînes petit à petit?
Alors, ma première opération marchant bien, d'ailleurs j'ai fait une vidéo YouTube dessus, cette fois-ci ça, j'ai changé un petit peu de façon de travailler, c'est-à-dire que je suis parti sur une vieille ville, un vieux village qui était la vieille ville d'Antibes. D'ailleurs, je conseille fortement les projets dans les vieilles villes, ça marche bien. Pourquoi ? Parce qu'on a beaucoup de vieux appartements, donc ils sont très grands avec des très belles hauteurs sous plafond, qu'on va pouvoir beaucoup plus facilement retravailler que dans des biens qui sont assez récents. On va pouvoir faire des divisions de l'eau, on va pouvoir faire des mezzanines, bref, on a beaucoup plus de travail à faire. Et donc, là, ça faisait un petit peu plus de temps que je faisais de l'immobilier. J'avais déjà un mini réseau, on va dire, et un peu plus de connaissances. Oui. Et donc, je m'oriente dans une vieille ville, la vieille ville d'Antibes. Et ma première opération de marchand de biens, c'était un grand studio avec une mezzanine que d'ailleurs, j'achète au patron de l'agence et que j'achète, je rénove et je revends en faisant un trois pièces avec, pareil, une grande mezzanine. Donc, tout ouvert, un beau duplex avec des Velux, tout ça, vraiment sympa.
Ah ouais, ça c'est sympa, c'est des hauts plafonds, et toi tu gagnes de la surface, non, avec des mezzanines, c'est ça ou pas? Parce que je suis allé à Lyon et on m'a dit, il y a beaucoup d'agents immobiliers qui m'ont dit qu'il y a énormément de gens qui faisaient beaucoup de ça, parce que ils pouvaient rentrer ça après dans la surface, et du coup, ben, au prix au mètre carré, gagner pas mal d'argent.
Exactement. Ouais, ton prix au mètre carré augmente, bon, à condition d'être au-dessus d'un mètre 80, et dans tous les cas, tu crées de la surface habitable, et c'est vrai que c'est bien, mais d'où la raison de le faire uniquement dans les vieilles villes, dans les vieux appartements, parce que dans des résidences récentes, tu feras jamais ça.
Ouais, c'est sûr. Ça se développe. Est-ce que ça se développe rapidement? Comment est l'évolution? Aujourd'hui, ça représente quoi? Est-ce que tu es toujours sur le même type de bien? Est-ce que tu es passé sur des beaucoup plus gros projets? Comment est-ce que ça évolue un peu?
Alors, ça se développe rapidement. Très rapidement, même des fois trop rapidement, j'ai un petit peu le défaut de toujours vouloir en faire trop. Et le problème dans le marchand bien et dans l'investissement immobilier, c'est que, bah, je réinvestis souvent, on me propose une affaire, plutôt que de dire non, je fais déjà bien celle que j'ai en cours. Et ben, je me dis, OK, allez, je la fais. Et donc, ça se développe bien, mais je connais quand même des périodes assez difficiles. Pourquoi? Parce que j'ai tous mes fonds qui sont placés dans les opérations immobilières. Ça prend des fois plus de temps que prévu les travaux, on a des imprévus, on a des acheteurs qui prennent plus de temps à signer, et donc on se retrouve embêté. Mais bon, ça se développe quand même très bien, et je fais ça, on va dire, de 2013 à 2018. Et ensuite, 2018, j'essaye vraiment de passer sur des projets beaucoup plus gros, plutôt des projets soit de la construction, de la grosse réhabilitation, quasiment de la promotion. Et là, donc, c'est des projets plus longs. Par contre, les marges sont beaucoup plus intéressantes.
Ok. Je vais attaquer avec une des questions qu'on m'a le plus posées quand j'ai dit que je faisais un épisode un peu sur le marchand de biens, opération d'achat-revente. La plupart des gens m'ont dit, comment est-ce qu'on peut commencer pour devenir marchand de biens, faire sa première affaire, se lancer? Comment est-ce que ça peut se passer? Est-ce que, bah, tu nous en as un peu parlé, mais comment est-ce que quelqu'un de lambda pourrait se lancer là-dedans?
Alors, la première chose à faire, c'est, je dirais, de ne surtout pas commencer sans connaissance et d'ouvrir une société et de se lancer en tant que marchand de biens. Je pense qu'on se lance en tant que marchand de biens à partir du moment où on a déjà de l'expérience dans l'immobilier. Alors, si on part de zéro, l'expérience de l'immobilier, comment on se la crée? Premièrement, on peut se former même à titre quasiment gratuit. On peut acheter des livres. Moi, j'ai acheté 3 livres au début. Ça m'a coûté 30 balles. Ça se suffisait. Bon, après, tu as des vidéos, tu as des formations, etc. Mais rien qu'avec 3 livres, déjà, tu peux faire des choses bien. Ensuite, tu vas te créer de l'expérience. Donc, soit tu vas acheter un bien, que ce soit en résidence principale ou en résidence secondaire, que tu vas rénover, que tu vas optimiser, que tu vas revendre, ou un petit peu d'investissement locatif. Et je pense qu'à partir du moment où tu as fait 2-3 investissements immobiliers, que tu as assez de fonds, il faut quand même avoir des fonds pour s'en servir en tant que marchand de biens, parce que la banque va te demander de l'expérience et des fonds. Et une fois que tu as ça, au bout de 2-3 ans d'investissement immobilier à titre perso, tu peux, si ça s'est bien passé, te lancer en tant que marchand de biens.
Ok, oui, donc faire un peu progressivement, et quand tu nous parles de fonds, avoir beaucoup, avoir des fonds de côté, ça représente quoi? Avoir 50 000 euros, 100 000 euros?
Ouais, minimum 50 000 euros.
Ok.
Vraiment, c'est le minimum, parce que quand tu vas faire un crédit en marchand, on va te demander au moins 20% d'apport. Moi, quand j'ai commencé, on me demandait 35% d'apport, puis je devais bloquer tous les intérêts de crédit pendant 2 ans. Donc, ça représentait, ouais, quasiment 45% d'apport. Bon. Mais ouais, il faut au moins 50 000 euros, au moins.
Oui, est-ce que éventuellement ça peut dépendre du secteur dans lequel on souhaite faire ses opérations? Par exemple, je te donne à Paris, si on veut se lancer à Paris, j'imagine que c'est beaucoup plus. Et peut-être que si on veut se lancer dans des villes voilà, où on peut acheter des biens, même pour 50 000 euros, peut-être qu'on a besoin de moins, non? Ça dépend peut-être du secteur.
Bien évidemment, tu veux te lancer plein Paris, là il faudra beaucoup plus. Mais bon,
Ouais,
après,
ouais.
si ouais, ça dépend des prix des biens, ça c'est logique.
Ouais. Ouais. Et toi, quand tu visites un bien, tu en as parlé un
Ouais.
petit peu, mais quels critères est-ce que tu vas regarder pour voilà, est-ce que y a des par exemple des postes que tu veux pas toucher? Est-ce que tu vas regarder un appartement, tu te dis non, il faut qu'il y ait déjà les fenêtres de fait. Est-ce que tu vas regarder un appartement, tu vas te dire il faut qu'il y ait un extérieur. Est-ce que tu as des critères et quels sont un peu les critères que tu vas regarder?
Alors, les critères, ils vont dépendre des secteurs. Quand tu parles d'extérieur, par exemple, si j'achète un appartement à Cannes avec une vue mer, s'il n'a pas d'extérieur, c'est même pas la peine. Donc ça, c'est vraiment propre à chaque bien. Au niveau des travaux ou quoi que ce soit, non, j'y vais dans tous les cas à partir du moment où c'est rentable. En fait, tout n'est qu'une histoire de calcul. Prix d'achat, coût des travaux, prix de revente. Donc en général, quand je fais une visite, ça va assez vite. C'est-à-dire que je visite le bien, je sais à quel prix je l'achète, je le sais à quel prix les travaux vont me revenir, et je sais à quel prix le revendre. Et pour ça, il faut quand même bien connaître son marché, parce que si on hésite au prix de revente ou quoi que ce soit, normalement on devrait même nous mieux savoir que les agents immobiliers quel prix on va le revendre. Si on n'est pas comme ça, il faut encore bosser de son côté.
Ouais, c'est je pense primordial. On en a parlé même quelqu'un qui investit de manière pour faire de la location, de savoir combien il va louer son appartement, là savoir combien tu vas le revendre. Comment est-ce qu'on connaît la valeur du marché? Est-ce que c'est en regardant les annonces tous les jours? Est-ce que c'est à force d'expérience? Comment tu conseillerais quelqu'un?
Je dirais comme toi, comment tu connais ton marché, bah tu es dedans depuis longtemps, même si tu es agent
Ouais.
immobilier, enfin tu connais toutes
Ouais.
les ventes, etc. Mais un particulier, il doit connaître aussi bien que toi ton marché. Donc pour ça, bah il va regarder les ventes qui se fait, il peut regarder donc sur le site notaire, il peut regarder les annonces. En général, c'est vraiment, ça prend beaucoup de temps à s'imprégner de son marché. Mais ouais, il faut du temps, il faut regarder toutes les annonces, il faut regarder les ventes, etc. Et ça, c'est un travail qu'on fait à chaque fois.
Et quel type d'appartement ou maison t'estimerais sont les plus adéquats pour quelqu'un qui va débuter? Est-ce que vaut mieux se concentrer sur des T2, des studios parce que il y aura moins de travaux? Est-ce que tout de suite faut aller sur des grandes surfaces?
Alors, je dirais que forcément déjà ça va dépendre du secteur dans lequel il se trouve et puis de son budget. Les choses assez simples pour commencer, moi c'est ce que j'appelle la création de pièces. C'est ce que j'ai fait. C'est que tu vas acheter par exemple un grand studio de 40, 42 mètres carrés que tu vas transformer en 2 pièces. C'est assez simple et ça te permet, si tu as bien analysé ton marché, dans certains cas de gagner de l'argent. Pareil, tu vas prendre un grand 2 pièces de 60, 65 mètres carrés que tu vas transformer en 3 pièces. Ça, c'est les premières opérations qui sont pas trop compliquées à faire. Tu ajoutes une chambre, tu fais une belle réno. C'est assez simple et ça te permet, si tu as bien analysé ton marché et que tu as bien acheté, de gagner de l'argent.
Quel type de statut est-ce qu'on peut choisir? Est-ce qu'on On a un statut particulier, notamment pour expliquer un peu aux gens, mais par rapport aux frais de notaire, par exemple, quand un particulier va acheter un bien, il va payer 7,5% de frais de notaire en moyenne dessus. Et pour avoir travaillé avec plusieurs marchands de biens ici à Annecy, il y en a certains qui arrivent à avoir des frais réduits. Comment est-ce que ça se passe ça? Est-ce que il y a une technique? Est-ce que c'est en fonction du statut? Comment ça marche?
Alors, en fait, les frais réduits, c'est automatique à partir du moment où on prend l'engagement de revendre dans les 4 ans son bien. Je sais plus si c'est dans les 4 ou dans les 5 ans, un des deux, mais bref, on va dire dans les 4 ans, on prend l'engagement de revendre son bien. C'est-à-dire que quand tu achètes avec ta société de marchand de biens, tu auras toujours des frais réduits qui seront à 3%. Pourquoi? Parce que tu achètes le bien, tu le revends, et donc l'État, forcément, il prend l'entrée et la sortie. Et par contre, si tu ne revends pas ton bien dans cette durée, dans les 4 ans, tu vas payer la différence dans tes frais d'enregistrement.
Ok, donc après, on va dire, on te retrouve et tu dois payer la différence si tu as payé pas assez.
Exactement. Si tu gardes, si t'as pas vendu le bien. Bon, en général, ton bien, si tu n'as pas vendu au bout de 4 ans, c'est qu'il y a un problème. Soit tu veux le garder, soit t'es pas
Mais
la
il y a
bonne
peut-être eu un problème. Il y a
affaire.
peut-être eu un problème niveau travaux, hein. Je sais pas si tu as
Exactement.
suivi, si tu as suivi les énormes projets qu'il y a aux États-Unis, par exemple sur The One, notamment le promoteur, là, Niall Niamey, il s'est embarqué dans des travaux et finalement il a mis 10 ans à faire sa
Finir,
maison et il s'est retrouvé, ben voilà, à vendre aux enchères à un prix réduit. Donc, il peut y avoir des soucis travaux. Niveau financement pour les opérations de marchand de biens, est-ce que c'est des crédits sur 20 ans, sur 15 ans comme d'habitude ou est-ce que y a d'autres choses?
Alors non, c'est des crédits complètement différents. Le crédit marchand, c'est un crédit in fine durant la totalité de son crédit. C'est-à-dire que tu vas emprunter en général, c'est des crédits sur 1 an ou 2 ans renouvelables une fois. Et durant la totalité de ton prêt, tu ne vas payer que les intérêts et non les intérêts plus le capital amorti. Ce qui te fait des mensualités en réalité beaucoup plus souples. Alors on a des taux un petit peu plus élevés, on va être à 2,2 ou 2,5. Par contre, bon, les intérêts sont déductibles entièrement de ton bénéfice imposable, forcément. Mais voilà, c'est des mensualités de crédit plus souples.
Et ça, on y a accès. Est-ce qu'on voit ça directement avec son banquier ou est-ce que le banquier lui-même va nous proposer ça ou c'est des choses à savoir et qu'on doit prendre les devants et le proposer?
Non, le banquier, bon, déjà, c'est pas toutes les banques qui financent les marchands de biens, c'est des banques un petit peu spécifiques. Et ensuite, le banquier, il est au courant qu'un crédit marchand, dans tous les cas, c'est différent qu'un crédit classique. De toute façon, en général, vous aurez un conseiller différent que votre conseiller classique pour emprunter en marchand, puisque vous devenez une société, vous êtes un professionnel. Et donc, la banque vous dira directement, voilà, votre type de crédit. Sachant que vous pouvez aussi avoir des lignes de crédit. On m'en avait proposé une à l'époque, j'avais refusé parce que ma ligne de crédit était inférieure à ce que je pouvais emprunter. Mais vous pouvez avoir des lignes de crédit, c'est-à-dire que la banque va vous mettre, comme sur un compte bancaire, je dis une bêtise, peut-être 500 000 euros. Vous piochez dedans, vous faites votre opération, vous remettez dedans et vous allez payer les intérêts uniquement la durée à laquelle vous avez pris cet argent. Et ça vous évite de faire des dossiers bancaires à chaque fois.
Ok, est-ce que tu peux nous raconter si tu as par exemple une opération qui t'a marqué, une dont tu es particulièrement fier, ça peut être même un immeuble, j'ai utilisé des immeubles, est-ce que tu peux nous raconter voilà, une de tes plus belles opérations?
Alors, une de mes plus belles opérations,
C'est peut-être pas forcément celle où tu as gagné le plus, hein, mais.
je dirais la première dont je parlais tout à l'heure en tant que marchand de biens. C'est pas celle où j'ai gagné le plus d'argent. Par contre, ce qui était marrant, c'est qu'en fait, j'avais acheté le bien directement au patron de l'agence. Donc, je lui avais fait l'offre à 170 000 euros directement à lui. Et j'ai signé le compromis de vente à 285 avant d'avoir signé le compromis d'achat. Donc c'était dans la même agence en plus, avec en condition suspensive, eh bien, le fait que je sois propriétaire du bien. Et bien entendu, j'avais fait des plans en 3D. À l'époque, bon, moi je faisais les plans sur Cosicasa. Bon, ça c'était sympa parce que bah du coup je vendais avant presque d'avoir acheté. Bien évidemment, après, donc j'ai acheté. J'ai fait l'intégralité des travaux et ensuite j'ai pu revendre. Mais ce qui était sympa, c'est que c'était tout dans la même agence et que c'était avec le patron d'agence à qui j'ai acheté l'appartement. Je lui ai dit, mais pourquoi tu le fais pas toi, quoi?
Ouais, c'est sûr. Et en fait, ce qui est bien, c'est que tu savais déjà en fait à quel prix t'allais le revendre, puisque c'était déjà acté. Est-ce que t'as pas eu, parce qu'il a dû se passer du temps, j'imagine, entre pour le temps que tu fasses les travaux, le temps que, est-ce que t'as pas eu, vu que le marché a augmenté, est-ce que t'as pas eu des regrets, parce que peut-être qu'il valait encore plus cher,
Non, non, non.
ouais,
Aujourd'hui,
c'était déjà bien.
il vaut plus cher. J'ai vendu 285. Je pense qu'aujourd'hui, il vaut 3,10, 3,20. Mais non, à l'époque, j'aurais pas pu le revendre plus cher parce que ça s'est fait assez vite, quand même.
Ok. Et comment on trouve, bon, si j'ai bien compris en fait, en gros le principe, on va trouver un bien soit qui est un petit peu en dessous du prix du marché, soit qui a beaucoup de travaux et donc qui est pas cher, et on va faire des travaux et le revendre. Mais comment est-ce qu'on trouve ces affaires? Comment est-ce qu'on arrive? Est-ce que c'est en négociant plus auprès des propriétaires? Comment on arrive à obtenir ces biens à un prix inférieur pour qu'on puisse faire ben voilà, une plus-value dessus?
Alors, il y a plusieurs choses. Premièrement, on va dire que dans la partie recherche, Malheureusement, il n'y a pas de solution miracle. La seule solution, c'est de faire le maximum de recherches. Moi, j'ai trouvé des bonnes affaires sur même sur Le Bon Coin. J'ai trouvé des bonnes affaires avec des agents immobiliers. J'ai trouvé des bonnes affaires avec des notaires, par recommandation, etc. Ce qu'il faut, c'est faire le maximum de recherches. Après, au niveau du bien, il y a deux choses à regarder. La première chose qu'il faut regarder, c'est bien évidemment le prix par rapport à la concurrence. Mais il y a autre chose qui est un petit peu plus simple, c'est le potentiel. C'est très difficile de trouver un bien identique à un autre qui va être 30% moins cher. Aujourd'hui, c'est quasiment impossible. Par contre, tu vas pouvoir trouver un bien qui va être quasiment identique à un autre, mais que tu vas pouvoir valoriser, donc par différentes solutions. Je parlais tout à l'heure de la création de pièces, tu peux faire des divisions de lots, tu peux faire des surélévations, tu peux faire des constructions, tu peux faire plein de choses. Donc, tu vas acheter un bien avec du potentiel, tu vas regarder le potentiel, tu vas valoriser ton bien, tu vas lui apporter de la valeur, et quand tu vas le revendre, tu vas pouvoir gagner de l'argent.
Admettons que je trouve, pour les gens, et éventuellement une idée, je trouve un appartement à 200 000 euros.
Ouais.
Je peux l'acheter à 200 000 euros. J'arrive à le négocier, 200 000 euros. Frais de notaire, j'ai pas encore ma société, donc je vais payer environ 15 000 euros.
Okay.
On va dire, quelle marge est-ce que tu envisages quand tu es dans ces opérations, et à quel prix est-ce que quelqu'un qui arrive à obtenir cette opération, il doit se dire, bah, je dois revendre à 270 pour que ce soit intéressant. Je dois revendre à 300 000 euros. Est-ce que t'as une règle pour ça? Parce qu'il y a des règles des fois pour la location, faut 7% ou autre. Est-ce que t'as une règle pour ça?
Alors, en général, une opération de marchand de biens, on va partir sur du 20% de marge. C'est-à-dire que si notre bien nous revient à 100, il faut qu'on le vende minimum 120. Maintenant, quand j'ai commencé et que j'étais dans des petits budgets, je me fixais plutôt un montant d'argent minimum plutôt qu'un pourcentage. C'est-à-dire que je me disais en dessous de 50 000 de plus-value, c'est pas la peine, même si je fais 20%, mais c'est pas la peine. Donc c'était vraiment 50 000 après 100 000, c'était un montant. Maintenant, sur les plus grosses opérations, on est à des montants beaucoup plus élevés, on va plutôt raisonner en termes de pourcentage de marge et on va être au minimum 20%.
Ok, et toi du coup, tu maintenant que tu as beaucoup plus d'expérience et d'habitude, là où on peut trouver les meilleures affaires, c'est plus sur des grandes surfaces, parce qu'on peut justement créer encore plus de valeur, ou non, il vaut mieux se concentrer sur des petites surfaces.
Alors après, il n'y a pas vraiment de règles. Tu peux faire des bonnes affaires partout. Après, c'est en termes de montant, forcément, plus tu vas avoir de budget, bah, plus tu vas pouvoir faire d'opérations et plus tu vas pouvoir gagner de l'argent.
Quels sont les... Alors, je vais te poser là deux questions en une, mais quels sont un peu les pièges à éviter que peuvent rencontrer un amateur qui va se lancer pour faire une opération de marchand de biens? Et il y a quelqu'un d'autre, quand j'ai demandé des questions, qui m'a demandé, je trouve que c'est assez intéressant si tu veux en parler, mais est-ce que tu peux nous parler des opérations où tu aurais éventuellement perdu de l'argent, ou alors pas fait autant de marches que ce que tu aurais l'habitude de faire? Et qu'est-ce qui aurait péché? Tu vois, quelles sont les erreurs, ou qu'est-ce qui a pu t'arriver et qui a pu... te porter préjudice.
Ok. Je vais répondre à la deuxième question qui va répondre à la première. Je vais parler de mon expérience. Je dirais la première chose, c'est l'évaluation des travaux. C'est de se dire, on va en avoir pour tant, alors qu'en réalité, eh bien, c'est plus cher. Pour ma part, à l'acquisition, à l'achat, à chaque fois, lorsque j'ai acheté un bien, c'était toujours une bonne affaire. Là où je me suis trompé, c'était sur l'estimation des travaux, l'estimation en termes de durée. Et en termes de coûts. Donc ça a été pour moi la plus grosse erreur. Je dirais que la deuxième erreur que j'ai faite, c'est plutôt une erreur humaine, et ça a été de vouloir trop acheter, trop investir, trop en prendre. Un petit peu, tu sais, comme les artisans qui prennent trop de chantiers en même temps et qui se retrouvent débordés et qui font pas bien leur travail. Et ça a été clairement pour moi la deuxième erreur que j'ai fait. Ça a été de vouloir trop en faire, me porter des affaires. Je me dis, bah, non, je peux, dans tous les cas, je vais y arriver. Et au final, là, on se retrouve en situation de stress parce que, on a tout qui est investi, on n'a plus d'argent. Lorsqu'on a des acheteurs, ils nous tiennent parce qu'ils sentent qu'on peut pas trop négocier, donc ils essaient de renégocier, etc. Et ça a été mes deux plus grosses erreurs.
À niveau donc travaux, quand tu achètes un appartement, que tu le refais, est-ce que quelle philosophie t'as? Est-ce que tu mets le top des prestations? Est-ce que tu essayes de faire un bon rapport qualité-prix, ou est-ce que vraiment tu mets la meilleure cuisine, tu mets des matériaux nobles? Comment tu vois
Alors,
les choses?
Pareil, ça dépend de tout type de bien. En général, le but, c'est de faire le meilleur rapport qualité-prix, ce qui peut être un petit peu frustrant des fois parce qu'on sait qu'on peut faire plus beau, on a envie de faire plus beau, mais on va pas forcément récupérer son argent. Donc ça, il faut vraiment jauger par rapport à son type de bien. Si j'achète un studio dans un coin pas très coté, je vais pas me mettre une salle de bain en marbre ou du parquet massif, ce serait complètement stupide. Mais en même temps, je vais pas mettre un lino et du 30-30 horrible. Je pense que aujourd'hui, on peut faire quand même pas mal de choses avec des petits budgets. Et dans tous les cas, j'essaie quand même de faire un peu mieux que la concurrence. Et tout le temps, même, je vends meubler et décorer mon bien. Voilà. Tout le temps, je vends meubler, décorer, clé en main. Pourquoi ? Parce que bien souvent, moi, je revends soit à des personnes qui achètent pour faire des investissements, ou soit des personnes, c'est des résidences secondaires qui viennent, ils ont juste leurs affaires à mettre. En plus de ça, le fait de vendre meublé, décoré, le prix des meubles, le prix de la décoration, moi, je fais un ou deux mois de location courte durée. Bon, bah, je l'ai récupéré. Et en plus, ça va créer forcément l'effet coup de cœur. Un bien, je pense que tu dois le savoir, qui est meublé, décoré, paraît toujours plus grand. Et puis, une personne se projette beaucoup plus facilement, surtout quand on fait des tout petits biens. Moi, des fois, je faisais des divisions de lots, donc je faisais des deux pièces dans du 22 mètres carrés. C'était des chambres microscopiques. J'étais pas à neuf, bien évidemment. Bah, si j'avais pas mis le lit, l'étape de nuit, la personne se serait dit, jamais je vais pouvoir circuler dans la pièce. Alors qu'une fois que tout est installé, tout est bien fait, on se rend compte que ça passe.
Ouais, c'est vrai, c'est assez frappant. En tout cas, pour vendre un bien, c'est beaucoup plus facile quand l'appartement, parce que j'ai travaillé avec des marchands de biens qui revendaient, l'appartement était tout vide, encore en travaux, et c'est très dur pour, je sais pas si tu passes par agence ou on va en parler, je sais que t'as une agence maintenant, mais c'est très dur de vendre un bien qui est tout vide, où est-ce qu'on va mettre le canapé, où est-ce qu'on va mettre le lit, et donc c'est important, je pense, ouais, de meubler son bien. Donc tu conseillerais même à quelqu'un qui débute de mettre quelques meubles, parce que faut bien le meubler aussi, parce que si c'est mal meublé, ça peut avoir l'effet inverse aussi, ou trop meublé.
Non, je conseille de moins mettre quelques meubles, de faire une déco sympa. Clairement, ça fait la différence.
Pour revendre, on peut peut-être partir un peu sur ça. Tu passes par agence, t'as ton agence, il me semble, si j'ai bien compris. Donc, comment ça se passe?
Moi, mon agence, j'ai depuis pas longtemps du tout, donc c'est assez nouveau. En général, quand je revends un bien, si c'est une agence qui me l'a porté, forcément, moi, je lui remets en exclusivité un certain temps. Le but, c'est que ce soit donnant-donnant. Bah, tu donnes une bonne affaire à quelqu'un, forcément, faut qu'il te la rende, puisque comme ça, l'agent immobilier prend deux fois la com. Donc, c'est la première chose. Si c'est une agence qui me l'a porté, je le remets dans cette agence. Après, je travaillais pas mal avec certaines agences. Donc, même si c'était pas l'agence qui me l'avait apporté, moi, je la remettais dans tous les cas chez eux. Et puis aussi pour certains biens, on vend par soi-même, sur le bon coin, etc. Ça marche très bien.
Ouais. Est-ce que tu as eu des mauvaises expériences avec des agents, justement, qui t'auraient par exemple dit ce bien-là, il va se revendre tant, et finalement, quand tu leur redonnes à la vente, ils n'arrivent pas à le vendre au prix qui t'avait peut-être indiqué?
Alors, j'ai travaillé à un moment, je crois, pendant 5-6 ans avec une agence, et à chaque fois, ils me disaient, j'achetais un bien, ils me disaient, tu vas pouvoir le revendre tant. Mais il m'a raconté que des conneries, je le savais. Et à chaque fois, il me faisait le coup. Bon, je le savais, donc je minorais mon prix. Mais il y en a, ils sont indécrottables. À chaque fois, ils essaient toujours de me dire, ouais, tu vas le revendre tant. Je me dis, mais ça fait 5 ans qu'on bosse ensemble. Je vois les ventes que j'ai fait avant. J'ai jamais revendu un deux pièces ce prix-là. C'est pas possible. Mais ils le font souvent. Mais en général, comme je dis, le but, c'est soit si on est marchand de biens, normalement, on connaît son marché aussi bien, voire mieux que l'agent immobilier. Si on a besoin du conseil de l'agent immobilier qu'on n'est pas sûr, c'est pas super, super bon signe.
Ouais, vaut mieux être sûr de soi, enfin, ne pas compter sur quelqu'un d'autre pour donner son avis. Je parle aussi un peu de mon expérience, mais les marchands de biens, souvent, ont tendance ou ont envie à énormément négocier le prix d'achat. Peut-être parce qu'ils ont fait leur calcul. Et souvent, ça peut passer. Comment est-ce que tu as des techniques pour arriver à négocier le prix, le réduire? Des fois, j'ai vu des baisses de prix de 70 000, des baisses de 60 000. Est-ce qu'il y a des techniques, ou alors est-ce que tu as un secret
pour ça? Oui, il y a pas mal de techniques de négociation. Je dirais la première, c'est de pas mettre de conditions de crédit. Ça marche assez bien. La deuxième, ça se fait beaucoup par les marchands de biens, c'est un petit peu l'ascenseur émotionnel. Et surtout par les promoteurs, c'est-à-dire qu'on va signer une offre à un prix, comme ça là, le client se dit c'est bon, j'ai vendu, et puis après on va renégocier avant le compromis, on va dire ça c'est ça que j'ai pas vu, on va renégocier, que c'était jusqu'à tirer à fond prix. Bon, les agents immobiliers n'aiment pas, je comprends, et les propriétaires n'aiment pas forcément, mais c'est une solution qui peut marcher. Moi, je l'ai fait quelques fois, et c'est vrai que je suis tombé pas mal en prix.
Oui, parce qu'il y a à la fois il y a cette condition suspensive de ne pas faire de crédit qui est hyper importante. Il y a aussi, je parle un peu aussi en tant qu'agent immobilier, mais aussi quand un marchand de biens achète, donc s'il est en société, il y a aussi le fait qu'il n'y a pas de délai de rétractation, non?
Exactement.
Tu signes ton compromis. Donc,
exactement.
C'est aussi un atout parce que les gens, voilà, une fois que le compromis est signé, à tel prix, on va dire c'est sûr que l'appartement est vendu. Il n'y a plus de stress. Donc c'est aussi un super avantage pour le marchand de biens.
Exactement.
Quel avantage ou différence tu verrais entre quelqu'un qui va faire, ou qu'est-ce que tu conseillerais, quelqu'un qui va faire de l'achat-revente, je vais investir, je vais faire de l'achat-revente, contre quelqu'un qui veut faire de l'achat mise en location. Quel avantage tu vois sur le marché de l'achat-revente par rapport à acheter pour louer?
Alors, on va dire que c'est pour différents types de personnes. Je prends souvent un exemple très simple. Imaginons, tu as 150 000 euros de budget. Ok, tu as de capacité d'emprunt. Oui. Tu fais un très bel investissement locatif, tu as 10% de rentabilité, ce qui est quand même très, très bien. Si tu fais le calcul avec ta mensualité de crédit, etc., tu vas avoir 400 euros de cash flow brut par mois. Donc, c'est très bien, mais c'est pas avec ça que tu vas vivre. Faut pas rêver. Tu prends le même budget en marchand bien, en achat-revente. La première année, tu fais tes 20%. On va dire qu'entre 6 mois et 1 an, tu vas réussir à avoir sur ton compte 30 000 euros. Donc, d'un côté, tu as 400 euros par mois brut et de l'autre côté, tu as 30 000 euros. Et donc, forcément, si tu veux vivre de l'immobilier très rapidement, vaut mieux commencer par l'achat-revente. Tu vas pouvoir te créer un petit capital et par la suite, pourquoi pas te diversifier, faire un petit peu d'investissement locatif et continuer l'achat-revente. Alors que si tu fais que de l'investissement locatif, bon, alors je sais qu'on va partout dans les formations qu'on peut refaire encore son opération, mais en réalité, c'est un peu de la connerie.
Ouais.
Une fois que tu as fait 2-3 investissements, même si tu as du cash flow, tu es bloqué par les banques parce que tu as un salaire et que tu peux pas emprunter des milliers des cents. Ça, c'est faux. Donc, très rapidement, tu vas être bloqué à moins d'avoir un très, très gros salaire.
Ouais.
Voilà. Donc, je dirais que l'achat-revente, l'avantage, c'est que tu peux multiplier les opérations un petit peu plus rapidement. Tu peux vivre de l'immobilier un petit peu plus rapidement à condition que tu ne te plantes pas.
C'est clair.
Bien préciser.
Non, mais c'est important de le dire aussi parce que il y a forcément de gros bénéfices, mais il y a aussi une importante part de risque.
Exactement. Moi, j'en ai vu plein. Ils font une opération, ils te disent j'ai acheté tant, j'ai fait mes travaux, je vais pouvoir revendre tant. En réalité, revendre moins cher, ils n'ont pas gagné un clou. Donc ça, il faut le dire aussi, quoi.
Ouais, c'est clair. Et puis c'est aussi du stress, hein, les travaux. Est-ce que je vais pouvoir revendre? C'est aussi du stress quand on est marchand de biens.
C'est aussi du stress. Je dirais que maintenant, comparé à même quand j'ai commencé. La grande chance qu'on a, c'est clairement pouvoir faire la location courte durée. Et ce qui nous permet très rapidement, en réalité, si on fait bien son calcul, on se dit, même si je ne le vends pas, mes loyers en location courte durée vont couvrir mon crédit. Donc, ça me permet de tenir.
Ouais, c'est intéressant ça, parce que ça peut apporter une tranquillité auquel on n'a pas forcément pensé. En fait, tu fais tous les travaux, tu le meubles, tu le mets en vente. Soit tu arrives à le vendre, soit sinon tu le mets en location courte durée, c'est ça?
Exactement. Moi, c'est ce que je fais quasiment à chaque fois. En plus, ça me permet de récupérer des fonds. Et même quand je vends, je dis aux personnes, regardez, en location, voilà ce que j'ai eu. Donc, même vous, en l'achetant à ce prix-là, vous avez quand même une rentabilité qui est intéressante.
Bon, depuis que tu as commencé en 2013 officiellement jusqu'à maintenant, tu as dû voir les prix qui ont explosé. Ça a énormément augmenté. Est-ce que tu arrives quand même à trouver encore des bonnes affaires ou est-ce que maintenant, non, c'est vraiment trop, trop élevé et tu peux plus forcément t'y retrouver?
Non, mais là, encore, j'ai trois belles villas en cours. Des bonnes affaires, on en trouve encore, mine de rien. Ce qui est plus difficile, c'est des terrains où on va faire des constructions. Ça, en tout cas, dans le secteur dans lequel je travaille, il y en a de moins en moins. Maintenant, des villas que tu peux rénover, que tu peux revendre cher. Quand tu vois ce qui se fait un petit peu aux États-Unis, à Bel Air, etc., où ils font des villas de dingue, ils vendent très très cher. Mine de rien, en tout cas moi, le secteur dans lequel je travaille, il y a moyen de faire des trucs sympas encore. Il y a vraiment moyen de faire des trucs sympas. Et tu vends cher parce que tu as les clients, quoi qu'il arrive, ceux qui ont de l'argent, ils ont toujours de l'argent. En location, moi, je suis un petit peu de gestion locative. Pareil, on a des gros budgets, des personnes qui peuvent mettre des très, très gros au mois et à la semaine. Donc, dans le secteur où tu as de l'argent, tu en auras toujours.
On a parlé un peu de ton activité aussi de promotion. Est-ce que tu peux nous expliquer comment ça se passe, comment ça marche pour toi, est-ce que ça va fort ou pas?
Alors, c'est une activité qui est complètement différente dans le sens où quand tu es marchand bien ou investisseur, c'est une activité que tu peux faire seul. Aujourd'hui, j'ai une équipe, j'ai des bureaux, etc. C'est complètement différent parce qu'on ne peut pas être bon partout et qu'il faut… ça devient presque être entrepreneur. En fait, tu vas prendre des personnes meilleures que toi que tu vas placer à certains postes. Donc, c'est complètement différent. L'avantage, c'est que forcément, les marges sont plus intéressantes, sont plus grosses. Je dirais que l'inconvénient, c'est que les projets prennent beaucoup plus de temps. Entre la signature du compromis, ensuite un dépôt de permis, la purge de permis, ensuite t'as beaucoup d'argent à avancer dans les avant-projets parce qu'un permis, ça coûte quand même de l'argent parce qu'au-delà du permis, t'as toutes les études à faire. Puis j'ai les salariés, etc. Donc c'est vraiment un business différent, mais après ça me plaît beaucoup plus.
Ok, on arrive bientôt à la fin. Est-ce que tu aurais une idée du nombre d'opérations que tu as fait depuis que tu as commencé? Est-ce que tu comptes? Est-ce que tu calcules? Ou est-ce que non, tu n'as pas d'idée?
Alors, compter, non, j'ai pas compté, mais avec cette année, on doit être dans les 90, on doit être dans les 90, ouais. 90 okay. lots, pas opérations.
Ouais.
L'eau, que ce soit des appartements, des terrains, des maisons.
Ok, et est-ce que tu aurais un conseil pour quelqu'un qui aimerait se lancer dans l'activité d'achat-revente de marchand de biens? Quel conseil tu me donnerais?
Alors, si je devais donner un conseil, le premier, ce serait de se former un minimum. Bon, même si j'ai une formation, on n'est pas obligé de prendre une formation. On peut acheter des livres. Après, attention avec les vidéos sur YouTube parce qu'il y a tout n'importe quoi. Moi, je dirais qu'on achète des bons livres et que on peut aller voir un expert comptable qui est une personne qui sera sachante. On peut aller voir un notaire. On peut aller voir des avocats. Tout ça, ça coûte rien et ça permet vraiment de se former. Donc, je dirais la première chose, c'est se former, de bien connaître. Ensuite, s'imprégner de son marché, de regarder toutes les annonces, les prix au mètre carré, vraiment tout bien connaître. Une fois qu'on a fait ça, commencer à titre perso, soit en résidence principale ou résidence secondaire. Et puis une fois qu'on a fait quelques opérations, à ce moment-là, se lancer en pro. Je dirais aussi vraiment prendre le temps, ne pas vouloir aller trop vite. Maintenant, avec les réseaux, on voit un peu tout et n'importe quoi. Ouais, j'ai acheté 30 appartements en 2 mois, etc. Mais moi, je vois un petit peu l'envers du décor. Ouais, t'as acheté ton appartement, mais le mois d'après, les mecs t'ont pas payé et t'es en faillite et c'est la merde. Donc, je dirais vraiment faire étape par étape sur ton achat-revente. Au début, t'achètes, tu rénoves, tu revends. Une fois que t'as tes sous, tu pars sur une deuxième. Une fois que t'as tes sous, tu pars sur une troisième. Et une fois que t'as fait ça 3-4 fois, tu vas pouvoir te développer petit à petit. Mais ça prend du temps. Faut pas rêver. 60 ans pour un chambien, il faut compter au moins 3 ans, je pense. Ensuite, de 3 à 5 à 7 ans, tu vas commencer à te professionnaliser. Et c'est vraiment au bout de 5 à 7 ans où tu vas avoir un réseau qui va travailler pour toi et où ça va venir petit à petit. Mais il faut prendre le temps.
Ouais, je suis 100% d'accord avec toi. J'ai beaucoup de jeunes, enfin, même si on est jeunes, ouais. Mais j'ai beaucoup de jeunes qui sont étudiants, qui sortent d'études et qui ont l'impression que ils te voient, par exemple, acheter des immeubles, faire des opérations à 1 million et quelques. Mais faut bien savoir que si on ne peut pas faire ça, il faut commencer avec un appartement à 60 000 euros.
Exactement.
On va revendre 90 000 euros. Il faut le faire plusieurs fois et vous aurez plus 10 000 euros d'apport. Vous aurez, au bout de quelques années, vous aurez 90 000 euros d'apport à pouvoir mettre dans des opérations. Donc vraiment, petit à petit, faut pas perdre espoir. Faut essayer de rester patient. C'est pas parce que vous voyez quelqu'un qui est… Voilà, maintenant on est en 2022. Caroline, toi, t'as attaqué, c'était 2011, 2013, donc c'est plus de 10 ans. Faut commencer petit. Ne vous découragez pas et ne dites pas, je peux pas acheter un appartement à 300 000 euros, donc je reste locataire. Attaquez avec 100 000 euros, attaquez avec 70 000 euros, et ça va venir. Je te remercie énormément d'être venu. T'as une chaîne YouTube, devenir marchand de biens immobiliers qui marche très très bien. T'as une formation.
Ouais.
Donc, Carolin, il a une formation pour bah, tout ce qu'on a évoqué ici. Et vraiment, là, on a été en surface, mais une formation pour devenir marchand de biens immobiliers, pour, ça couvre tous les aspects. Moi, j'ai tout regardé ce que tu proposais. C'est vraiment, ça a l'air génial. Donc, allez voir sa formation si vous êtes intéressé, ses vidéos. Est-ce que tu as autre chose que tu sors, que tu vas sortir, que tu aimerais m'entendre
Non,
parler?
pour le moment, après, moi, j'ai fait une formation, ça me plaît beaucoup, justement, d'accompagner les gens. Mais mon activité principale, ça reste, je suis vraiment passionné de l'immobilier, d'acheter et revendre. Donc,
Super.
après, faire les deux, c'est compliqué. Donc, j'ai une formation avec, j'ai tout mis dedans. Mais non, j'ai pas d'autres produits, j'ai pas d'autres produits.
Ouais, c'est les appartements. Si on veut acheter un appartement Carolin Artaud, on doit se diriger où ton agence
Ouais,
immobilière propose les biens à.
j'ai une agence immobilière. Il y a le numéro, il y a le contact, il y a tout. Donc, avec ça, il n'y a pas de problème.
Ok, bah génial. Je mettrai tout ça en description. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous m'envoyez un message, vous allez voir l'Instagram de Caroline. Franchement, vous aurez plein de contenu gratuit que vous pourrez consommer pour vous former. Merci Caroline. Tu as
Merci
un
à
petit
toi.
mot pour terminer ou pas?
Écoute, ce que je pourrais dire aux personnes qui nous écoutent, c'est exactement comme ce que tu disais, voilà, c'est de prendre le temps, de faire étape par étape. Et surtout aussi, c'est pas facile. Ne croyez pas que c'est facile. On peut voir certaines personnes, on peut se dire c'est facile. Non, il y a énormément de travail, il y a des périodes qui sont très 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 difficiles, faut pas rêver. Et il faut rester motivé, bosser. Et petit à petit, ça se fait.
Ok, génial. Merci beaucoup d'être venu. Je vous remercie d'avoir écouté ce podcast. C'était Parlons Immobilier, le podcast immobilier numéro 1 de France. Et je vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Ciao.